Mon histoire des femmes, par Michel Perrault. Huitième épisode.
Le sexe des femmes. Voilà ce qui nous occupera aujourd'hui. En fond de tableau, imaginez. La toile de Courbet, l'origine du monde, aujourd'hui à Orsay. Longtemps, cette toile a été la propriété d'un amateur qui la gardait secrètement sous une tenture, comme un scandale. Peindre la nudité d'une femme, c'était courant. Peindre son vagin, c'était autre chose. Le sexe, c'est la petite différence anatomique qui inscrit les nouveaux-nés dans l'un ou l'autre sexe et qui fait qu'on les classe comme homme ou femme. Il y a un véritable drame de l'indifférenciation. Michel Foucault a publié « Les souvenirs d'Herculine Barbin, dite Alexina B. » qui raconte le drame de cette hermaphrodite, femme qui se sentait un homme, qui obtint d'ailleurs cette reconnaissance, mais finit par se suicider de la difficulté à vivre cette situation. La transsexualité est aujourd'hui reconnue sans être pour autant plus aisée à vivre. Le plus souvent, on s'inscrit dans la dualité, dans l'arrangement des sexes, pour reprendre l'expression d'Erving Goffman, cet arrangement par lequel la société, justement, organise la différence. Les rapports du sexe biologique et du genre social et culturel sont au cœur de la réflexion féministe contemporaine. Des travaux pionniers, ceux de l'anthropologue Margaret Mead et ceux de la philosophe Simone de Beauvoir. Je me limiterai à quelques remarques sur l'histoire de la différence des sexes et du sexe des femmes. Et d'abord, sur la représentation du sexe féminin. Cette représentation est de très longue durée et elle est dans l'infériorité. D'Aristote à Freud, le sexe féminin est vu comme un manque, un défaut, une défaillance de la nature. Pour Aristote, la femme est un homme manqué, un être incomplet, comme une statuette mal cuite. Et à l'autre bout de la chaîne, Freud fait de l'envie du pénis le cœur de la sexualité féminine. Pour la plupart, des penseurs, des médecins, des philosophes, d'autrefois bien entendu, la femme est un être en creux, troué, marqué pour la possession et la passivité, par son anatomie, mais aussi par sa biologie. On voit la différence. Dans la génération, la femme, disait-on, ne fournit qu'un réceptacle, un vase, dont on peut seulement espérer qu'il soit tranquille, calme et chaud. On ne découvrira le mécanisme de l'ovulation qu'au XVIIIe siècle, et c'est d'ailleurs seulement au milieu du XIXe siècle qu'on en appréciera toute l'importance. Alors en somme, inférieur, la femme l'est d'abord par son sexe, par sa génitalité. Toutes les époques d'ailleurs n'accordent pas la même importance au sexe. Certaines le minimisent. Ainsi le Moyen-Âge, pour lequel les sexes sont des variétés d'un même genre. Il y a un genre unique et puis il y a les femmes, les hommes. Par contre, la Renaissance distingue le haut et le bas du corps. Exalte le haut, noble siège de la beauté, et déprécie le bas, animal. Mais c'est peut-être aussi que la Renaissance prend conscience de la sexualité des êtres. Et sur ce point, Sarah Matthews-Grieco, qui a étudié le corps féminin à la Renaissance, nous raconte beaucoup de choses. Le XVIIIe siècle est un grand siècle de sciences naturelles et médicales. Et lui, alors il découvre le bas. Le bas, c'est le lieu du plaisir et c'est le lieu de la vie. Il y a une valorisation du bas, comme disait la Renaissance. Le XVIIIe siècle, d'une certaine manière, invente la sexualité avec cette insatiable volonté de savoir dans laquelle Michel Foucault a vu le grand principe de la modernité. Et Il en fait du sexe et de la sexualité le fondement de l'identité et de l'histoire des êtres. Au fond, le XVIIIe siècle sexualise les individus, et notamment les femmes. Comme l'a montré dans la lignée de Michel Foucault, Thomas Laqueur, un Américain, qui a publié un livre il y a quelques années, traduit en français, qui s'appelle « La fabrique du sexe, essai sur le corps et le genre en Occident ». Un livre important qui est paru chez Gallimard. D'après Laqueur, qui a étudié les écrivains, les médecins, les philosophes du XVIIIe, la femme devient alors son sexe. C'est le sexe qui l'absorbe et l'imprègne tout entière. Je cite Rousseau, « Il n'y a nulle parité entre les deux sexes quant à la conséquence du sexe », écrit-il dans l'Émile. « Le mâle n'est mâle qu'en certains instants. La femelle est femme toute sa vie, ou du moins toute sa jeunesse. Tout la rappelle sans cesse à son sexe, et pour en bien remplir les fonctions, il lui faut une constitution qui s'y rapporte, à savoir ménagement, repos, vie molle et sédentaire. Il lui faut la protection de la famille, l'ombre de la maison, la paix du foyer. La femme est son sexe et se réduit à lui qui marque sa fonction dans la famille et sa place dans la société. Le sexe des femmes est fait pour être protégé, clos et possédé, d'où d'ailleurs l'importance accordée à l'hymen, cette membrane qui protège le sexe des femmes, et à la virginité, surtout par le christianisme, qui fait de la chasteté et du célibat un état supérieur. La virginité est une valeur suprême pour les femmes, et surtout pour les filles, bien entendu. La Vierge Marie est l'opposée de Marie-Madeleine. Elle est leur modèle et leur protectrice, parce qu'elle a été à la fois conçue sans péché, c'est le dogme de l'Immaculée Conception, et elle conçoit elle-même sans homme, par l'opération du Saint-Esprit. Les filles, par conséquent, sont enfants de Marie. Elles sont astreintes à la pureté. La pudeur est leur parure, leur virginité. Au mariage est leur capital le plus précieux. La virginité des filles appartient aux hommes qui la convoitent, mais surtout, c'est le droit de l'époux. Et la nuit de noces est traditionnellement, y compris dans la chrétienté, une prise de possession. Un rituel longtemps public et qui n'est devenu intime qu'avec le temps. On peut dire que au XVIIIe et au XIXe siècle, il se privatise. Le voyage de noces, par exemple, qui existe dans les milieux plutôt aisés au XIXe siècle, est comme la marque de la privatisation de la fameuse nuit de noces. Désormais, ça appartient aux époux. La sexualité des femmes, c'est-à-dire l'exercice du sexe des femmes, eh bien c'est un mystère. Cette sexualité, elle est mystérieuse. Elle fait peur. Elle est inconnue et méconnue. Et sa représentation oscille entre deux pôles contraires, l'avidité et la frigidité. À la limite, c'est l'hystérie. Avide, d'abord. Eh bien, le sexe des femmes est vu comme un puits sans fond, où l'homme s'épuise, perd ses forces et sa vie, jusqu'à l'impuissance. D'où, d'ailleurs, pour le soldat, le sportif, on le voit bien aujourd'hui, la nécessité d'éloigner les femmes. Pour le philosophe Kierkegaard, je cite, « La femme inspire l'homme aussi longtemps qu'il ne la possède pas. » Il y a donc une peur de la sexualité des femmes, sexualité qu'on ne peut jamais satisfaire. Et d'ailleurs, Stendhal, qui avait très peur de la sexualité féminine, éprouvait souvent le fiasco, c'est-à-dire l'impuissance, parce qu'il avait peur de cette rencontre sexuelle. Donc, avidité du sexe des femmes. Et d'un autre côté, frigidité. C'est l'autre forme de la représentation de la sexualité féminine. On dit que les femmes n'éprouvent pas de plaisir, qu'elles ne désirent pas l'acte sexuel, voire que pour elles c'est une corvée. C'est ce que dit Balzac dans La physiologie du mariage. Il montre que les femmes prétextent la migraine et cherchent à se dérober au devoir conjugal. Il est vrai que justement, il s'agit du devoir conjugal. Balzac sait aussi nous peindre des femmes désirantes. D'où, pour les hommes, la nécessité, la justification de trouver ailleurs leur plaisir. Maîtresse, prostitution, maison de rendez-vous, fille galante, c'est la parade à la frigidité des épouses dans le lit conjugal. Les hommes rêvent, convoitent, imaginent le sexe des femmes, et c'est là la clé de l'érotisme, de la pornographie, voire du sadomasochisme. Il y a aussi l'image d'une sexualité sans frein. Ça, c'est celle des sorcières, dont nous aurons l'occasion de reparler. Et parmi les reproches qui sont faits aux sorcières, c'est d'être des vulves insatiables, même quand elles sont vieilles, c'est-à-dire hors de l'âge permis de l'amour. Et c'est aussi parce que elles cherchent à chevaucher les hommes contre la position dite naturelle, à les prendre par l'arrière. Autrement dit, la sorcière, c'est la part maudite de bataille. Et puis au bout de la chaîne, eh bien, il y a la femme hystérique. Qu'est-ce que c'est que la femme hystérique? C'est la femme malade de son sexe, malade de son utérus. Et on le disait toujours, mais au XIXe siècle, ça devient objet de clinique de la part des psychiatres. Par exemple, Charcot, dans les fameux lundis de la Salpêtrière, où il examinait des femmes hystériques, et il recevait là toutes sortes de gens, d'écrivains aussi, montrait la folie du corps des femmes, et espèce de nouvelle convulsionnaire, eh bien, qui était tout simplement malade de leur utérus. Toutefois, Nicole Edelman, qui a consacré un livre aux femmes hystériques, montre que, au XIXe siècle, il y a un double mouvement. D'une part, il y a une remontée de la matrice au cerveau. Ce n'est pas la matrice qui est malade, c'est pas l'utérus, ce sont les nerfs. C'est la femme nerveuse qui va devenir maintenant la véritable femme hystérique. Et d'autre part, il y a une extension de l'hystérie à l'autre sexe. Les hommes aussi sont hystériques. Flaubert d'ailleurs l'écrivait à George Sand. Je suis hystérique, je suis un hystérique. Voilà pour la représentation de la sexualité des femmes, un objet vraiment bien étrange et qui inquiète beaucoup. Maintenant, que savons-nous des pratiques sexuelles et dans ces pratiques sexuelles de la sexualité féminine? Pas tant de choses que ça, à cause du silence, de la pudeur qui recouvre ces pratiques pour tous et notamment pour les femmes. Il y a une sexualité permise, c'est celle du lit conjugal. Ce lit conjugal, on ne sait pas bien si les femmes, elles éprouvent aussi du plaisir et on les voit parfois satisfaites de cela. Mais de leur part, il y a une demande croissante du mariage d'amour, de façon justement à avoir un partenaire qui leur plaise. Maurice Doma, dans La vie conjugale au XVIIIe siècle, montre que c'est un désir croissant, et bien entendu au XIXe et XXe siècle, ça va devenir une demande centrale. On peut dire que le couple ne cesse de monter en puissance, et son grand âge sera véritablement le XXe siècle. La découverte du plaisir féminin, plaisir qui existe, elle est ancienne. Il y a au Moyen-Âge des textes qui nous renseignent à ce sujet, et notamment à la Renaissance, où on le voit à travers les peintures, par exemple de l'école de Fontainebleau, ou les poésies, et des poésies féminines. Pensez à la poésie érotique de Pernette Duguillet. Et il y a un désir des femmes qui s'exprime dans certains textes. Par exemple, Pierre Camporesi, dans « Les baumes de l'amour », cite les expériences de l'italienne Catherine Sforza, qui choisissait les postures de l'amour pour bien jouir de l'acte sexuel. Et Brantôme, dans « La vie des dames galantes », nous montre aussi des femmes qui savent en profiter. Au XVIIe siècle, on est beaucoup plus prude, et au XVIIIe un peu moins, mais au XIXe tout à fait. Alain Corbin, qui prépare une anthologie des textes érotiques du XIXe siècle, me disait avoir beaucoup de mal à trouver des textes de femmes. Parler du sexe des femmes par les femmes est alors un objet de profond refoulement. Ceci dit, dans des procès pour crimes passionnels, eh bien, on voit que des femmes trompent leur compagnon ou leur mari tout simplement parce que il ne les satisfait pas, ce compagnon. Et l'amant prend consistance dans une figure à la fois tragique de l'ombre et puis de plus en plus comique, par exemple dans le vaudeville du boulevard. Et l'homosexualité, qu'en savons-nous? Eh bien, là aussi, on en parle peu, parce que elle est réprouvée et dissimulée, moins pourtant que l'homosexualité masculine. Marie-Jo Bonnet a tenté de faire son histoire dans la peinture et dans la littérature. Elle a publié, en 95, Les relations entre les femmes. On voit que les jeunes filles entre elles éprouvent des émois du cœur et du corps dans les pensionnats. Dans les pensionnats anglais, il y a toute une littérature à ce sujet. Et puis, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, dans les milieux privilégiés, il y a eu les Amazones de Paris, les femmes de la rive gauche, autour de Nathalie Clifford Barnet, René Vivien, et bien d'autres. Et quand Proust peint les jeunes filles en fleurs, nous savons bien que Albertine et André, eux, sont amis et amante, et que cela préoccupe beaucoup Proust. Et puis dans les années dites folles, c'est-à-dire les années 1920-1930, autour de Colette, Gertrude Stein, Sylvia Beach, Adrienne Monnier, et en Angleterre autour de Virginia Woolf et ses amis du groupe de Bloomsbury, il y a un fort développement de l'homosexualité, aussi bien masculine que féminine. Les ouvrages de Christine Barr, de Florence Tamagne ont aussi développé l'étude de cette homosexualité. Alors pour conclure, le continent de la sexualité féminine est-il rose ou noir? Les deux probablement. En tout cas, c'est un continent secret où il y a encore beaucoup à découvrir.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.